L'idée, c'était de partir du fait que la vulnérabilité, c'est un terme qui est aujourd'hui vraiment omniprésent. On le voit dans le monde universitaire, dans les médias, dans le monde politique, dans les associations. Et on peut voir, par exemple... une explosion de ces termes dans Google Scholar, donc ça référence les articles et les ouvrages universitaires. Vous voyez une explosion des termes à partir des années, fin des années 90. C'est un terme qui a considérablement cru, enfin vraiment de façon exponentielle, jusqu'en à peu près 2014. Et alors, par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il est en train de décroître. Donc en fait, on est peut-être déjà en train de travailler sur un concept sur le déclin, en tout cas qui marque le pas. Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? Est-ce qu'il finit de vivre ses belles heures? L'histoire le dira, mais en tout cas, on en est là pour l'instant. On peut aussi aller regarder, alors ça c'est un vrai outil si vous êtes étudiant ou chercheur ou etc, c'est pas toujours très connu, c'est Google Ngram Viewer. En fait, il suffit de taper Google Ngram Viewer sur internet, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. C'est un logiciel de Google qui a été développé sur la base de millions d'ouvrages, qui permet de voir des termes aussi bien français que anglais, allemand, etc. Enfin, c'est des corpus de millions d'ouvrages dans toutes les langues. Et par exemple, si vous tapez donc vulnérabilité et la en français, vous voyez que le terme décolle à partir de 1945. On est dans l'après-guerre, c'est la vulnérabilité de l'après-guerre, cette crise du logement, la pénurie, le rationnement jusqu'en 49, etc. Donc effectivement, il y a un contexte de vulnérabilité des organismes, mais ça explique pas cela. Il décolle véritablement dans les années 70, il a un palier de stabilisation dans les années 80 et il reprend depuis, ce qui est un peu ce que Google Scholar nous montre. Et ça marche aussi pour le langage anglo-saxon, puisque si vous le tapez le même terme, donc son homologue anglo-saxon, vulnerability, qui lui a une courbe beaucoup plus régulière, mais qui augmente aussi, pareil, à partir de 1945, qui décolle et qui se stabilise, on ne sait pas pour le coup s'il est stabilisé. Le problème de ce corpus, petite incidence, c'est qu'il va que jusqu'en 2000, alors que sur Google Scholar, vous pouvez aller jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à avant-hier. Google Ngram Viewer, une fois que Google a développer ça, il s'est aperçu que finalement, ça y est, c'était développé, c'était plus très rentable et il a arrêté à partir de 2000. Donc du coup, on est limité. Pour les historiens, c'est très bien. Pour les sociologues, c'est un peu plus frustrant. Voilà, donc ça vous donne une idée déjà du décollage du terme. Et c'est un terme qui doit aussi son succès au fait qu'il a été approprié par toute une série de disciplines, qu'il a été légitimé par toute une série d'instances publiques et parapubliques, et par ricochet, qui fait l'objet d'une utilisation absolument fourre-tout dans les médias, le monde associatif et le grand public. Et donc la question qui soulève, c'est, fondamentalement pour l'historien en tout cas, est-ce que c'est un nouveau terme pour penser des nouvelles réalités, ou simplement pour remplacer d'anciens termes qui seraient devenus trop usés, trop connotés ? Deuxièmement, en quoi est-ce que, pour le coup, ça c'est plus du volet sociologique, en quoi est-ce que c'est un terme qui est pertinent et éclairant pour penser l'action publique? Et enfin, c'est peut-être une dimension plus philosophique, en quoi ce terme traduit une façon dont la société se pense, puisque quand on s'approprie un terme, c'est forcément qu'il est en adéquation avec quelque chose, et donc c'est ça qu'il faut aller gratter. Et du coup, je vous propose de... Bruno a loupé les graphiques. Mais je te les redonnerai. Je vous propose une intervention en trois temps qui d'abord revient sur la généalogie de la notion. Grand 2 qui essaye de montrer en quoi c'est un terme qui est congruent avec les évolutions de l'action publique contemporaine. Et enfin, troisième réponse à ma question, en quoi c'est le reflet d'une société qui se sent vulnérable. C'est bon ? C'est parti. Petit 1, alors comme je ne sais pas exactement quel cadrage vous avez eu, je vais passer vite. J'imagine que ça a peut-être été expliqué, mais je ne sais pas exactement dans quelle mesure. C'est l'inconvénient d'arriver en retard. Quelques éléments justes de définition. Ça vient du latin vulnus, la blessure, vulnérare et blessé. Ça signifie, selon le Larousse, qui peut être blessé, frappé, qui peut être facilement atteint, qui se défend mal. Et le Larousse lui donne deux synonymes, fragile, sensible. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est une sorte de talon d'Achille. d'Achille. C'est un talon d'Achille avec deux zones, deux notions sous-jacentes. D'une part, puisque c'est talon d'Achille, c'est la fêlure. Il y a une fêlure par où l'arrivera l'atteinte, c'est la zone fragile. Et la deuxième connotation, c'est celle de la blessure qui va matérialiser l'atteinte. Et donc, sociologiquement, il y a une belle définition de Marc-Henri Soulet qui dit la vulnérabilité, c'est une potentialité à être blessé. Et il y a une aussi jolie définition d'une psychoclinicienne qui s'appelle Sylvie Pendelet, qui dit qu'être vulnérable, c'est être désarmé, c'est-à-dire insuffisamment doté en armes, en défense, pour lutter contre les éléments intérieurs ou extérieurs qui nous menacent. Et donc, c'est la première caractéristique fondamentale de ce terme, c'est qu'il est ontologique. Nous sommes tous vulnérables parce qu'on est, parce qu'on meurt, parce qu'on est malade, parce qu'on est humain tout simplement. Nous sommes tous vulnérables. C'est une propriété commune à notre fond d'humanité. Et la deuxième caractéristique, si on en suit tout simplement cette définition, c'est que ça ne préjuge strictement en rien de la nature de la blessure. Dans la littérature de la vulnérabilité, il peut s'agir d'une blessure physique, mais aussi d'une blessure psychique, mais aussi d'une blessure sociale, etc. Et donc, potentiellement, on a un champ d'applicabilité qui est véritablement gigantesque. Et c'est ce qui explique, petit b, qu'il se soit petit à petit étendu à ce point. Et ça se voit en particulier si on fait un panorama disciplinaire, puisque c'est un terme qui a connu un succès véritablement transdisciplinaire. Et ça explique aussi ces courbes que je vous ai montrées. C'est un terme qui a commencé à s'imposer dans les années 70 dans les littératures psy. Il était associé à la notion de résilience, hein, donc cette petite notion de Cyrulnik, qui est cette capacité à s'adapter à un environnement changeant, à revenir d'un stress post-traumatique, à surmonter une blessure. Vulnérabilité, blessure, résilience, surmonter la blessure. Et donc, ça insiste tout à la fois sur la fragilité, mais aussi sur la réversibilité, ce qui est une notion extrêmement importante de la blessure. Parce que, et vous allez, on en arrive à son homologue, il a en revanche pas du tout percé en gériatrie. En gériatrie, on utilise la notion de fragilité. La notion de fragilité, qui est plutôt un état médical, on utilise aussi la notion de dépendance comme état social. Et la fragilité, elle a deux différences majeures avec la vulnérabilité. La fragilité, c'est une dimension intrinsèque de l'individu. Un état de l'individu à un moment donné de sa vie et qui donc n'induit pas l'idée qu'il y aurait un agent extérieur qui menace ou qui va provoquer la fêlure ou la blessure. Contrairement à la vulnérabilité qui, dans beaucoup de la littérature qu'on peut voir, renvoie à une interaction, à une dynamique avec un environnement au sens plus ou moins large. La vulnérabilité, elle n'existe que dans l'exposition à l'autre. Contraire de la fragilité. Et l'autre différence entre fragilité et vulnérabilité, c'est que la vulnérabilité, on l'a vu, elle est réversible, la fragilité n'est pas réversible. C'est pour ça qu'en gériatrie, quand on parle du grand âge, a priori, la machine à remonter le temps n'existe pas encore, et donc on est dans quelque chose d'irréversible. Vous vous acheminez inéluctablement vers la maladie, la mort, etc. Et donc on est dans quelque chose d'irréversible qui est plutôt de la fragilité. C'est un terme qui s'est petit à petit développé dans toute une série de disciplines, l'expertise sur le développement, le management des catastrophes, les sciences environnementales, de la santé, de la nutrition, l'économie, statistique, etc. Et dans ces disciplines, c'est très associé à la notion de risque. Il y a un risque d'être touché, frappé, et donc ce risque, on va essayer de le calculer, de l'analyser, de l'anticiper, de le prévenir, d'en mesurer l'impact. Et c'est dans ce cadre que toutes les grandes organisations internationales se le sont appropriées dans les années 90, l'ONU, le PNUD, la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, etc., tout le monde, pour essayer de lui forger des indicateurs statistiques, de trouver des zones de vulnérabilité, des zones géographiques, hein, strictement, d'aller prévenir les choses, des populations vulnérables, donc on l'applique à toutes les échelles géographiques, sociale, humaine, médicale, et on essaye d'avoir un traitement politique anticipateur et curatif. La vulnérabilité, vous l'avez vu, elle a aussi gagné le droit, donc j'irai vite, hein. Elle a pénétré le droit à partir des années 80, avec notamment les travaux du doyen Jean Cardonnier. Et on a ce socle qui est le code pénal, qui présente une liste limitative de 6 états de faiblesse physique ou mentaux qui permettent de caractériser la vulnérabilité. Alors, je suis arrivée au milieu de la conférence, donc je ne sais pas s'ils ont été redits, mais c'est donc l'âge, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique, l'état de grossesse. Donc c'est à la fois large et limitatif. Le droit fait la distinction entre vulnérabilité qui effectivement n'existe pas vraiment et particulière vulnérabilité. Il faut qu'il y ait ait une particulière vulnérabilité, qui sont ces six États, pour que ce soit pris en compte juridiquement. Ceci dit, on a une conception beaucoup plus large et peut-être tout aussi intéressante dans le rapport 2009 de la Cour de cassation, qui porte précisément sur la vulnérabilité et qui, pour le coup, lui, induit les étrangers en situation irrégulière dont on parlait dans la discussion, les personnes surendettées, les salariés précaires, etc. Donc le droit fait d'une part la distinction entre vulnérabilité, enfin sans plus, qui n'est pas vraiment une notion juridique, et particulière vulnérabilité. Et d'autre part, je pense que ça a été dit puisque je l'ai entendu, vulnérabilité réelle et vulnérabilité personnelle, suivant qu'il y ait des facteurs endogènes ou exogènes, qu'elle est plutôt économique ou pas. La vulnérabilité s'est enfin imposée en sociologie, depuis les années 90 aussi, en sociologie de la santé, en sociologie de la pauvreté-précarité, en sociologie des migrations. Et c'est peut-être là qu'elle est devenue un des plus grands fourre-tout, parce qu'on l'a appliquée à quantité de publics qui sont exposés à des rapports de domination défavorables. C'est la caractéristique commune, et ou souffrant de formes de déficit ou d'incapacité. Et donc, elle a pris à un moment donné des tours très, très catégoriels. Il y avait la vulnérabilité des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes en situation de pauvreté, immigrées, minorités, etc. Et cette caractéristique de fourre-tout, qui renvoie donc à toute une quantité de situations d'exclusion, elle a été une des principales objections faites au terme, c'est que sociologiquement, à force de tout désigner, ça finit par ne plus rien dire du tout. Et donc les sociologues ont demandé à ce qu'on ait des définitions un petit peu plus solides, un petit peu plus resserrées. C'est aussi une notion qui était un peu trop fixiste et un peu trop extrême. Et les sociologues, petit à petit, dans les années 2000, ont préféré des notions plus processuelles, comme celle de désaffiliation, comme celle de... désaffiliation, désocialisation, etc. La vulnérabilité, elle a par contre, elle existe. C'est peut-être là où elle était le mieux défendue, c'est par Robert Castel dans les années 90. Robert Castel, en fait, dans son analyse des populations fragiles socialement, il fait deux axes. Un axe qui est celui du travail, et donc petit à petit, vous pouvez glisser de l'emploi stable à l'emploi précaire et au non-travail. Et un autre axe, donc imaginons qu'il y en a un qui soit horizontal, l'autre est vertical et sinon inverse. L'autre, c'est celui de la sociabilité, où on est plus ou moins intégré par sa sociabilité, donc de la sociabilité, de l'appartenance très forte à des situations d'isolement. Et ce schéma permettait, en fait, si les axes se coupent, lui permettait de définir quatre zones. Il y avait une zone d'intégration, une zone de vulnérabilité, une zone d'assistance et une zone de désaffiliation. Et donc, pour Castel, cette vulnérabilité, c'est une zone stratégique. C'est, je le cite, un espace social d'instabilité, de turbulence, peuplé d'individus précaires dans leur rapport au travail et fragiles dans leur insertion relationnelle, d'où le risque de basculement. Vous voyez que lui, il ne faisait pas encore la distinction entre vulnérabilité et fragilité, que c'est venu un petit peu après. Et en tout cas, il le associe très fortement à la notion de précarité, qui est une notion importante, notamment en pauvreté-précarité, qui, elle aussi, la précarité, c'est cette même idée de basculement. Quand on est précaire, on risque de basculer dans quelque chose de grave. Si c'est la précarité énergétique, eh ben on va vers la coupure de courant. Si c'est la précarité financière, on va vers la dette. Si c'est la précarité du logement, on peut aller vers l'expulsion, etc. Donc la précarité, c'est une zone dangereuse, instable, stressante, angoissante, qui risque de vous faire basculer. Quoi qu'il en soit, les sociologues se sont mis d'accord aujourd'hui à peu près pour considérer que la notion de vulnérabilité pouvait être applicable à condition de ne pas être trop catégorielle et d'être un peu solidifiée. Et ils en font une notion qui a plusieurs caractéristiques. D'une part, elle est universelle, je vous l'ai dit, tout le monde est potentiellement vulnérable. D'autre part, elle est potentielle, c'est-à-dire qu'il y a un risque, mais ce n'est pas certain qu'il se concrétise, mais on est exposé à un risque. Elle est individuelle. Elle frappe pas tout le monde de la même façon. Face à une même exposition, certains individus peuvent être plus ou moins touchés. Elle est réversible. Et donc, on peut agir sur les facteurs de vulnérabilité et sur le contexte. Elle est relationnelle, c'est-à-dire qu'elle renvoie, on l'a vu, à une interaction entre l'individu et son environnement, dans une dynamique de rapport à l'autre. Et donc, elle découle de l'interdépendance humaine. Elle est ontologique et elle découle de notre interdépendance. Et enfin, elle est contextuelle, puisqu'on est vulnérable dans un contexte donné et en fonction des protections dont on bénéficie. Et donc, pour résumer cette définition, face à cet ensemble sociologique et même cette première partie, l'exposition à la vulnérabilité, elle est commune à tout le monde, mais elle n'est pas égale. on est tous exposés, mais on est inégaux dans la matérialisation. Et le fait qu'elle se soit comme ça diffusée dans toute une série de disciplines, de champs, c'est un des clés du succès du terme et de ces courbes qui ont eu cette croissance exponentielle. Il est utilisable dans très nombreux champs et il a aussi été approprié pour cette raison par les instances politiques. Si vous regardez par exemple, en 2005, c'est la commission Famille, Vulnérabilité, Pauvreté qui est présidée par Martin Hirsch et dont le rapport préfigure le RSA. Elle a été prise par même par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui a lancé en 2008 un appel à projet vulnérabilité à l'articulation du sanitaire et du social. Elle a été, je vous l'ai dit, prise par la Cour de cassation en 2009, comme titre de son rapport « Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation ». L'Observatoire national de l'enfance en danger en a fait une année de séminaire. Les vieux Créailles ont changé leur nom pour devenir des centres sur les personnes en situation de vulnérabilité, etc. Donc elle est absolument partout, la CNAF s'utilise, elle est absolument partout. Non, c'est pas la dernière partie, parce que cette première partie, vous allez voir, est très longue, mais après ça y sera plus court. Je voulais vous dire quelque chose cette fois-ci à titre d'historien, que donc on a vu, il y a un cycle de vie de cette vulnérabilité, elle a énormément monté et elle commence à décroître. Ça nous amène à prendre ce terme dans sa vie, un terme n'est pas figé, il apparaît parce qu'il correspond à quelque chose, il se développe parce qu'il correspond à quelque chose, et il décroît parce qu'il correspond à quelque chose. Et donc, il faut l'utiliser, il faut le prendre dans son cycle de vie, et c'est intéressant aussi de le replacer au regard des termes qu'il remplace. Et à cet égard, je me permets de faire une petite rétrospective des termes qu'on a utilisés pour désigner les différentes personnes qui se trouvent aujourd'hui relevées du champ de la vulnérabilité. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Dans le champ du handicap physique, on a parlé d'infirme et incurable au XIXe siècle, on a parlé de paralysé dans l'entre-deux-guerres, on a parlé d'infirme moteur depuis 1945, dans les années 60-70 de handicapé moteur, etc. Autant de termes qu'on n'utilise plus aujourd'hui, celui d'handicapé à la rigueur, mais d'handicapé moteur plus beaucoup. Le champ du handicap mental est sans doute le plus étonnant. On parlait de fous sous l'Ancien Régime, on parlait d'aliénés au XIXe siècle, on parlait d'anormaux, d'imbéciles, de débiles et d'idiots qui étaient des termes médicaux, hein, qui aujourd'hui, vous traitez quelqu'un d'imbécile ou de débile mental, dans la cour de récréation, vous allez au piquet, si tant est qu'il existe encore. C'était des termes qui faisaient partie du vocabulaire juridique, médical, etc. On parlait même, alors là, c'était pas le vocabulaire juridique, mais on le trouve dans des discours politiques de déchets sociaux dans les années de l'entre-deux-guerres. En tout cas, on parlait d'arriérés. Dans les années 50, on parlait de malades mentaux, on parlait d'arriérés. Après, on a parlé de débiles mentaux, de handicapés mentaux, etc. Et aujourd'hui, on va parler de personnes en situation de handicap mental ou de personnes en situation de handicap psychique. Donc, vous voyez que les termes, en fait, se succèdent parce qu'au bout d'un moment, ils deviennent usés, ils deviennent connotés et on a besoin de les remplacer par d'autres. On peut faire la même chose sur le champ de la pauvreté-précarité. Au XIXe siècle, on parlait de gêne, de pauvreté et d'indigence, et il y avait une gradation dans ces trois notions. Aujourd'hui, la pauvreté est devenue une notion générique. Dans les années 50, on a parlé d'économiquement faible. On a parlé, dans les Trente Glorieuses, on parlait de marginaux, d'asociaux et d'inadaptés sociaux. Et c'est pour ça que contre ces termes, ATD Quart-Monde, qui est dignement représenté ici, a forgé les termes de sous-prolétariat et de quart-monde. On pourra y revenir, mais ce n'est pas le lieu de le développer ici. Dans les années 80, avec la crise économique, on s'est mis à parler de nouveaux pauvres et de pauvreté-précarité. Dans les années 90, on a ressorti le terme d'exclusion sociale qui s'est considérablement développé. Et la vulnérabilité, elle, remplace tout ça. Donc vous voyez que les termes, c'est des analyseurs du temps. Un terme n'est jamais neutre, il n'apparaît jamais par hasard, il remplace toujours d'autres termes qui sont devenus usés, connotés, inadaptés, vieillis, tout ce que vous voulez, et il devient neuf, il a une vie, il est beau, il croit, et puis après, lui aussi, il est atteint d'obsolescence et de décrue, ce qui est peut-être le cas du terme de vulnérabilité aujourd'hui. Il a aussi ce terme de vulnérabilité pour propriété d'être un des premiers termes véritablement englobant, je vais en reparler tout à l'heure, d'être véritablement transversal, transcatégoriel. Si vous parlez de handicap mental, si vous parlez de pauvreté, si vous parlez de handicap physique, vous avez des catégories bien définies. Le vulnérable, potentiellement, il englobe tout ça. Et la seule fois où on avait vraiment ces termes englobants, c'était dans les Trente Glorieuses, quand on parlait de marginaux, d'asociaux, d'inadaptés sociaux, qui étaient donc cette période de prospérité. Et c'était des termes qui étaient assez proches de ce qu'on appellera aujourd'hui l'exclusion, mais qui sont devenus extrêmement connotés parce qu'il y avait un rapport à la norme, un rapport... voilà. Et en fait, les pauvres n'étaient pas des gens qui étaient des pervers ou des gens qui refusaient les normes, étaient simplement des gens qui étaient victimes de conditions de vie dégradantes. Et donc, petit à petit, ces termes... Et puis, ils ont été extrêmement critiqués, ces Foucault, etc. Et ils se sont étiolés. Je passe, donc on pourrait revenir sur la notion d'exclusion, mais je ne le fais pas ici parce que le temps tourne. Et j'en arrive à la deuxième partie, qui sera un peu plus courte, et la troisième le sera encore plus, rassurez-vous. Sur la deuxième grande clé du succès de ce terme, c'est que c'est une notion qui est congruente avec les politiques publiques et avec tous les publics, enfin qui désignent potentiellement tous les publics traités par l'action sociale et médico-sociale. D'abord, il est applicable donc à tous les publics cibles de l'action médico-sociale. Il est applicable à l'enfant. Alors, on ne va pas refaire l'histoire de l'enfance ici, hein, mais la protection de l'enfance, la prise de conscience de l'enfant comme être à protéger, ça se développe véritablement à partir du 19e siècle. La prise de conscience qu'il est particulièrement vulnérable. Et il y a toute une série d'actions sociales, juridiques, médico-sociales qui se mettent en place autour de cette notion. Parce que, pourquoi il est vulnérable, vous le savez, hein, parce que il est en cours de constitution. L'enfant, il est inachevé. Il est en cours de constitution biologique, psychologique, sociale. Il n'a pas toutes ses défenses. C'est le petit être sans défense. C'est la définition même de la vulnérabilité. Et donc, pour pallier son absence de défense endogène, il nécessite des protections exogènes, d'où le terme juridico-administratif de protection de l'enfance. Et ces protections peuvent être des protections génériques qui concernent tous les enfants, par exemple les droits de l'enfant, ou des protections plus spécifiques qui ciblent certains enfants en particulier, par exemple la maltraitance, l'orphelinage, la migration, etc. L'enfant est aussi très vulnérable aux formes de domination qu'il subit, en tout cas qui s'exerce sur lui, puisque les rapports entre l'adulte et l'enfant sont par définition dissymétriques, et donc il doit être protégé des dominations abusives, ça c'est le domaine du droit. Et l'apport de la psychologie, c'est aussi de montrer que les premières années de l'enfance sont complètement déterminantes dans le développement futur, et c'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la prévention précoce de la petite enfance. Et juridiquement, depuis 1912, on a des tribunaux spécifiques pour les enfants, parce qu'on reconnaît précisément que c'est un être qui est encore non mature, non adulte, et qui donc relève d'un traitement protégé. L'adolescent aussi est un être vulnérable, mais pour une autre raison. Alors, historiquement, c'est assez drôle de voir comment, pendant très longtemps, les enfants qu'on dit aujourd'hui des enfants en difficulté étaient des enfants qui étaient difficiles. Donc, c'est exactement l'inverse. Schématiquement, c'est le passage du coupable à la victime. Au XIXe siècle, les enfants qu'on n'arrivait pas à maîtriser, c'était des enfants qu'on appelait vicieux, des enfants amoraux et des enfants qu'on plaçait en colonie pénitentiaire. Vous imaginez, enfin, des adolescents. Le terme même dit l'horreur de ce que ça pouvait être pour le développement d'un adolescent. On les plaçait à la campagne. Il y avait les protections, enfin, les mesures de déchéance paternelle. Les parents s'en débarrassaient et on les enfermait parce qu'on pensait qu'ils étaient vicieux, viciés et qu'il n'y avait rien à en tirer et qu'ils étaient finis pour le reste de leur jour. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont beaucoup avancé, notamment avec la psychanalyse qui nous a montré, alors on peut penser par exemple à Dolto, elle parle du complexe du homard pour l'adolescent. Le complexe du homard, c'est quoi? Dire qu'il y a complexe du homard, c'est l'adolescent, c'est un homard en mue. Le homard qui a perdu sa carapace, s'il a perdu son carapace, il est par définition vulnérable. C'est la définition de la vulnérabilité, on l'a vu, c'est d'être désarmé. Donc la psychanalyse reconnaît l'adolescent comme être par définition lui aussi vulnérable, qui est même une sorte de vulnérabilité généralisée, avec toutes ces formes très spécifiques, qui sont aussi des formes... L'adolescent est vulnérable, mais s'expose aussi à la vulnérabilité. Il y a ces formes d'addiction, de conduite dangereuse, d'exposition au risque. On sait très bien que les adolescents ont un rapport au risque qui est un peu différent, et les conduites addictives, la sexualité, etc. Et puis, il y a toute une diversité de figures de vulnérabilité adolescente, les figures de l'échec scolaire, les figures de l'assignation territoriale dans des zones reléguées et difficiles, les figures de maltraitance, de rupture familiale, de migration. On en parle, vous en parliez, parce que les migrants sont souvent aussi des jeunes. Et donc, face à cette vulnérabilité de la jeunesse, La réponse doit être la protection. Elle est de restaurer l'individu dans ses capacités pour ne pas gâcher ses potentialités restantes. Et toujours à propos des migrants précisément, la limite, elle est à 18 ans. Et cet âge névralgique du mineur isolé est fondamental. Avant 18 ans, vous êtes protégé. Après 18 ans, vous ne l'êtes plus, ce qui marque bien un rapport à la vulnérabilité qui bascule complètement quand on entre dans l'âge adulte. La vulnérabilité, elle est aussi pleinement applicable aux personnes qu'on appelle aujourd'hui en situation de dépendance et qui, en fait, relèvent de deux catégories qui historiquement étaient disjointes, qui sont le handicap et le grand âge, qui sont deux catégories aussi par excellence où on n'a pas sa pleine autonomie, où on est en situation de dépendance et donc on a besoin de protection ou d'aide. Donc c'est la catégorie grand âge. Alors historiquement, les anciens ont toujours été protégés. On a toujours eu un regard bienveillant envers ce qu'on appelait les vieillards, nos petits vieux, nos vieux, mais de façon assez sympathique. Ce qui n'était pas du tout le cas par contre des handicapés, où la France a un traitement absolument dramatique historiquement de ces handicapés, puisque où on les enfermait, où on les maintenait à la maison quand ils étaient enfants et adolescents, chez leurs parents, sans donner aux parents les moyens de les élever, sans donner de pension. On n'avait pas le droit de toucher une pension pour ses enfants quand on les gardait handicapés, quand on les gardait à la maison, puisque c'était ses enfants, c'est le principe de la subsidiarité, il faut s'en occuper puisque c'est les nôtres. Et c'est seulement depuis les années 60-70 que les associations ont fait bouger les choses. Le champ des handicaps, c'est les associations qui ont tout fait bouger, avec la naissance dans les années 60 de l'UNAPI, de l'APAGE, de l'UNAFAM, de l'ARCHE, etc., qui ont développé des foyers de vie et des foyers de travail pour que ces adolescents puissent grandir et s'insérer dans une vie la plus normale possible. Et c'est aussi ces associations qui ont fait pression sur les pouvoirs publics pour aboutir à la loi de 75 sur le handicap. Mais vous voyez qu'à l'échelle de l'histoire, elle est extrêmement tardive. Donc ce sont deux catégories, grand âge et handicap, qui eux aussi relèvent de la dépendance. On pourrait dire que c'est de la vulnérabilité. On pourrait dire que c'est plutôt de la fragilité, parce que de fait, le handicap très lourd ou le grand âge sont des situations non réversibles et sont des situations de fragilité intrinsèque. En même temps, on utilise de plus en plus dans le champ du handicap le vocabulaire de vulnérabilité complexe pour parler des polyvulnérabilités, les stades avancés de l'autisme, de la maladie d'Alzheimer, etc. Et le droit utilise le terme de particulière vulnérabilité pour ces deux catégories. Je passe parce que le temps court toujours. Deux mots sur la situation des personnes en situation de pauvreté précarité, qu'on considère souvent de façon assez naïve comme relevant d'un problème monétaire. Grosso modo, c'est un riche avec de l'argent en moins. Pas du tout la pauvreté. Ça affecte toutes les dimensions de votre vie. Ça affecte la santé par la malnutrition. Donc ça fragilise la santé. On glisse dans la vulnérabilité sanitaire. Ça affecte l'accès aux soins. Ça a en général des liens très forts avec la fragilité au travail, puisqu'on est exposé aux travaux les plus dangereux, les plus pénibles, les plus mal payés, les plus pathogènes. Ça a des répercussions sur la vie familiale, ça a des répercussions sur le quotidien du couple, des enfants. Quand on fait grandir son enfant dans des conditions difficiles, ça lui donne moins de chances lui-même de devenir un adulte. Ça brise l'égalité des chances et donc mécaniquement la pauvreté tend à se reproduire de génération en génération et de façon générale la pauvreté est reconnue comme une atteinte à la dignité des droits de l'homme. Donc le droit, on vous l'a dit, je développe pas dessus puisque ça a été dit, a mis en place toute une série de dispositifs qui relèvent de la lutte contre le surendettement, de l'encadrement de la précarité du travail, de l'aide juridictionnelle, de l'aide aux étrangers en situation irrégulière pour garantir un minimum de droits de la personne, même si j'entends que ça n'est pas extraordinairement respecté. Et on peut aussi citer les travaux qui se développent depuis quelque temps sur ce qu'on appelle la vulnérabilité langagière de ces personnes, c'est-à-dire en fait quand on n'est pas suffisamment armé en termes éducatifs, de formation, de connaissances, une difficulté à s'exprimer et à se faire entendre, et donc une forme de vulnérabilité langagière qui lui-même accroît le risque de blessabilité et d'exclusion, tout à la fois sociale, civique, économique, politique, etc. Et Bruno Tardieu vous a rappelé qu'aujourd'hui, la précarité sociale, en fait la pauvreté précarité tout simplement, est reconnue comme 21e critère de discrimination en tant que vulnérabilité sociale. Donc il y a bien reconnaissance de cette association entre les deux. Du coup, puisqu'elle est applicable à tous les publics cibles de l'action sociale et médico-sociale, si on regarde l'organigramme de la DGCS, on peut mettre toutes les catégories dans celle de la vulnérabilité, eh ben, elle est complètement appropriée par l'action sociale et médico-sociale contemporaine. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle s'applique à tous les publics, donc évidemment, c'est commode. D'autre part, parce qu'elle est, et alors là c'est un tour de force, tout à la fois universelle et catégorielle, et qu'il y a tous ces débats entre les tenants des politiques ciblées et des politiques universalisantes, et donc que finalement, ça permet de tenir tout par le même bout, d'être assez politiquement intéressant. Elle est très congruente avec les politiques d'empowerment et d'état social actif. Alors, je ne sais pas à quel degré de connaissance vous en êtes de ces questions-là. Est-ce qu'il faut que je dise ce que c'est ou c'est bon ? Oui. En fait... L'idée, l'empowerment, c'est reprendre main sur sa vie. Enfin, ça vient des années 60 aux États-Unis. C'est de rendre aux gens leur capacité pour qu'ils deviennent acteurs. Ça aboutit depuis les années 90 dans des politiques sociales qu'on appelle les politiques d'état social actif, qui sont en fait des politiques qui visent à vous remettre sur le marché du travail. Et c'est vraiment au cœur de ces politiques sociales. Et pourquoi la vulnérabilité, ça va bien ? Parce qu'elle a cette même idée que nous sommes tous vulnérables, mais que nous disposons tous des ressources pour nous en sortir. Vous allez voir, philosophiquement parlant, comment on le traite pour retrouver davantage d'autonomie. Si on va chercher en nous-mêmes, on est capable d'aller surmonter notre vulnérabilité pour retrouver davantage d'autonomie. Et les travailleurs sociaux et les associations sont là pour vous accompagner dans cette démarche. Et donc, c'est tout à fait congruent avec les démarches actuelles où on essaye de responsabiliser les gens de façon, des fois, un petit peu pernicieuse. C'est aussi très congruent avec toutes les politiques de prévention, puisque l'idée de la politique de prévention, c'est d'aller chercher dès la zone de fêlure avant que la blessure se matérialise. C'est l'égalité des chances, c'est l'idée de prévenir pour ne pas avoir à trop réparer ensuite. Et donc, dans ces politiques, on pourrait dire que finalement, la vulnérabilité, c'est une sorte de notion pivot. D'un côté, si on essaye de développer l'empowerment, l'accompagnement des personnes, de faire du préventif et du curatif, on va les accompagner vers l'autonomie. Et pour celles qui n'y arrivent pas ou pour celles pour qui ça n'est pas possible, il y a glissement vers la dépendance et donc vers l'assistance, qui est une situation de non-autonomie. Et elle est aussi très congruente avec les politiques de care. Si vous regardez la littérature sur le care, dont on parle énormément depuis les années 90, un des ouvrages fondateurs, c'est celui de Joan Tronto, qui s'intitule « Un monde vulnérable pour une politique de care », qui montre bien que ces notions sont complètement associées. Les deux étant universelles, le care est universel, la vulnérabilité est universelle, parce que en fait, ça nous concerne tous à un moment de notre vie. Le care, ça dit, il y a toujours un moment de notre vie où on aura besoin des autres. Quand on est à la naissance, quand on est petit enfant, quand on est malade, quand on vieillit, on a besoin du soin des autres. Personne n'est entièrement autonome. Et personne n'est entièrement autonome parce que nous sommes tous vulnérables. Donc nous aurons toujours, à un moment ou à un autre de notre vie, besoin du soin des autres. Et c'est pour ça que les deux tournent autour à la fois de la notion de souhait d'autonomie de la personne et de réalité, de forme de dépendance. Et c'est finalement aussi un des enjeux de l'action sociale et médico-sociale, c'est d'articuler dans bien des cas les souhaits d'autonomie des personnes et les réalités de leur dépendance. Je ne sais pas du tout où j'en suis sur le temps. Ça va ? C'est très rassurante, mais ça ne me donne pas plus d'idées.
Non, mais au moins encore 15 minutes.
Ah bah ça, c'est plus que ce qu'il faut.
Ça va.
Oh, c'est Byzance. C'est aussi très, très congruent, j'arrête pas de dire congruent. C'est très en phase avec les idées de transversalité de l'action sociale, de parcours, de maillage pluridisciplinaire, institutionnel, de référent parcours unique, de guichet unique, de simplification des parcours. L'idée de prendre l'individu dans sa vulnérabilité, dans son ensemble, parce qu'une vulnérabilité, c'est pas, elle n'est pas économique, elle n'est pas du logement, elle n'est pas de formation, elle est souvent plurifactorielle, elle est tout à la fois la vulnérabilité sociale, la vulnérabilité sanitaire, tout s'entremêle, le travail, le revenu, le logement, la santé, tout s'entremêle dans tout, et donc l'idée de prendre la personne dans sa globalité, elle est à la fois appelée par la notion de vulnérabilité quand on l'entend bien, et par l'action sociale dans sa logique de transversalité. Et enfin, c'est la vulnérabilité des aidés qui induit aussi celle des aidants, puisque ceux qui ont eu la malchance d'avoir à s'occuper d'une personne, par exemple, atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est combien être aidant d'une personne vulnérable vous rend vous-même vulnérable. Et les pouvoirs publics ont travaillé aussi dessus, par exemple, depuis 2009, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Et enfin, une dernière petite caractéristique à laquelle je tiens beaucoup, c'est que j'ai dit en introduction, au début tout à l'heure, que la vulnérabilité, elle est contextuelle. C'est notre environnement qui induit précisément le contraire d'une fragilité, une vulnérabilité. C'est le rapport à l'environnement et aux autres. Et donc, l'idée de vulnérabilité, derrière, il y a l'importance d'agir sur l'environnement pour le rendre moins vulnérabilisant. C'est pas la personne qui est responsable. Je vais vous en redire deux mots en conclusion. C'est d'abord l'environnement, souvent, qui provoque la vulnérabilité. Et il y a eu toutes les politiques depuis les années 80, de l'emploi, de la ville, de la lutte contre les discriminations, pour l'égalité des chances, etc. Ça va toujours ? La dernière partie, qui est la plus courte, c'est de dire que donc vous avez vu ce succès du terme, vous avez vu que les termes ont des cycles, et que si celui-là est apparu, et si celui-là a cru comme il a cru, comme vous l'avez vu sur les courbes, c'est que finalement il correspond à quelque chose. Si on a choisi de l'adopter, de se l'approprier, c'est qu'il nous correspond. Et donc le succès du terme, il ne peut pas être dissocié d'une approche macro, qui est une approche plus philosophique, qui essaye de renvoyer à la façon dont la société se pense. Et je voudrais vous dire deux petits mots de deux philosophes qui ont pensé ça de façon assez stimulante, même si historiquement c'est des fois un petit peu curieux. Le premier, c'est Danilo Martuccelli, qui donc présente un modèle historiquement ternaire. Alors là, je vous demande de reprendre les choses à zéro conceptuellement et d'être attentif. C'est pas très compliqué, mais il faut rentrer dans la logique. Danilo Martuccelli dit, schématiquement, on peut séparer l'histoire en trois temps, qui sont des pâtés d'alouette qui effrayent un peu l'historien, mais qui, en même temps, sont stimulants intellectuellement. Pendant l'univers judéo-chrétien, c'est-à-dire à peu près des calendes grecques au XVIIIe siècle, la vulnérabilité est perçue comme existentielle. Elle est biologique, elle est naturelle, c'est le propre de l'homme, parce qu'on ne sait pas trop lutter contre. Depuis la faute originelle, nous dit la Bible, l'homme est vulnérable, et c'est comme ça. Et quand il y a des fléaux, quand il y a des pestes, quand il y a des maladies, quand etc., et ben c'est la vie, c'est une fatalité. Et donc, il y a une sorte de fatalisme qui ouvre à des attitudes compassionnelles, charitables, mais grosso modo, on ne peut pas faire bien davantage. Et puis, arrive la modernité, dans les années 19e, 20e siècle, et la vulnérabilité devient perçue comme une question sociale, c'est-à-dire qu'on peut lutter contre. Arrive Pasteur, arrive la découverte des antibiotiques, arrive la protection sociale républicaine avec des lois sociales qui vous donnent droit à l'assistance quand vous êtes malade, quand vous êtes... c'est les lois d'assurance aussi, la protection sociale, elle s'édifie à la fois sur l'assistance, l'assurance et les services publics. Et donc on arrive à se protéger de la vulnérabilité. On peut essayer d'en traiter les causes et on va arriver finalement peut-être un jour à la vaincre et l'homme sera invulnérable. Et patatras, ça n'arrive évidemment pas. Depuis les années 70 du XXe siècle, 1970, nous dit Danilo Martuccelli, on est finalement à la fois en essayant de lutter contre cette vulnérabilité, parce qu'on est toujours avec nos antibiotiques, etc., et notre protection sociale, mais en même temps, on est quand même conscient qu'on n'arrivera jamais à la vaincre et que la vulnérabilité, elle est ontologique, elle est humaine. Et donc, on est, dit-il, à équidistance entre ce pôle existentiel et ce pôle social. Et ça rejoint finalement les travaux d'Ulrich Beck sur la société du risque. Il nous dit qu'avant, le danger était imputable aux dieux et à la nature, et puis on a développé des outils pour maîtriser le risque, le rendre prévisible, contrôler les dangers, etc. Et donc aujourd'hui, on est dans cette zone d'incertitude où on est avec cette prise de conscience du risque et en même temps cette volonté de le maîtriser. Combien de personnes j'ai perdu dans cette histoire ? Et deuxième hypothèse ou théorie qui est aussi intéressante, qui est complètement différente. Donc lui, le monde historiquement se divise en deux et non pas en trois, et il commence au 19e siècle. Il nous dit, Jean-Louis Genard, donc on a un modèle binaire. Alors, N'ayez pas peur. Il nous dit au premier 19e et au premier 20e siècle, nous étions dans une anthropologie disjonctive. Anthropologie disjonctive, c'est-à-dire que les choses sont disjointes. Les choses sont binaires. Vous êtes capable ou vous êtes incapable. Il y a la nature, il y a la culture. Vous êtes responsable, vous êtes irresponsable, etc. Et depuis la fin du 19e siècle, nous dit-il, on est entré dans une ère beaucoup plus complexe, qui est celle de l'anthropologie conjonctive, où on peut être tout à la fois coupable, enfin responsable, mais non coupable. On peut être autonome et hétéronome, on peut être capable et incapable, grosso modo on peut être bien portant mais aller chez le psy, on peut être malade mais être soigné en ambulatoire, c'est-à-dire pas dans un hôpital, on peut être résilient, etc., etc. C'est exactement cette notion d'état social actif et dans un sens d'empowerment. On est tous vulnérables, mais disposant de ressources pour se mobiliser, pour se reprendre, se ressaisir, avoir des capacités minimales pour retrouver davantage d'autonomie. Et donc voilà, donc son idée c'est ça, c'est de dire que, comme d'ailleurs Martuccelli, on est finalement aujourd'hui dans une forme d'anthropologie, d'air, de la vulnérabilité, où on est à cette équidistance entre pôle social et pôle existentiel, où on est dans cette société du risque, dans cette société des incertitudes, qui de fait correspond quand même, c'est là où historiquement ça tient quand même un tout petit peu la route, depuis les années 1970, on est à la fois dans un rapport à l'environnement qui est quand même compliqué, on est en crise du politique, on est en recomposition du religieux, on est dans une société qui se voudrait apaisée mais qui est à nouveau en guerre, dans un contexte d'insécurité, le vocabulaire de l'insécurité, vous voyez bien en quoi il traduit cette notion de ce sentiment de se sentir vulnérable, la montée sécuritaire politiquement, elle est aussi dans ce contexte de la vulnérabilité. La montée des incertitudes, la montée du risque, enfin tout, l'idée de précarité, on n'arrête pas de parler de précarité sociale aujourd'hui, c'est exactement ça aussi, cette notion de vulnérabilité. Donc c'est ce sentiment de fragilité, d'incertitude, d'entre-deux, de risque de basculement, qui fait que la société entière, aujourd'hui, se sent un peu vulnérable. Deux mots juste de conclusion pour dire que donc effectivement l'action sociale est bien, pour reprendre un séminaire de la DGCS, un ensemble de politiques et de programmes destinés à restaurer, compenser ou améliorer l'autonomie des personnes ou des groupes vulnérables. Vous voyez comment l'action sociale se pense au niveau de l'État, essayer de restaurer l'autonomie des personnes qui sont vulnérables, que c'est une notion qui est pleinement congruente avec toutes les évolutions des orientations des politiques publiques depuis les années au moins 80-90, qui explique qu'elle soit par ricochet appropriée par le droit, puisque le droit, en fait, on vous l'a dit, mais c'est vraiment ça, importe des catégories qui sont forgées par l'action politique. Mais là où, par contre, on peut être optimiste, c'est que l'action politique, et où il ne faut pas baisser les bras, l'action politique, elle est votée, vous l'avez dit, par le Parlement, et que, alors là, je fais une petite incise qui n'était pas dans mon propos, mais pour faire changer les lois, il suffit de se mobiliser, en un sens. L'abbé Pierre, il s'est mobilisé contre l'objection de conscience à une époque où ça n'existait pas, elle a fini par exister. Le droit au logement, le droit au logement n'existait pas jusqu'en 1982, il a été aboli en 86, il est revenu en 90, et maintenant il est opposable. C'est-à-dire, le droit n'arrête pas de changer, et il change parce qu'il y a des gens dans la société civile qui ont des relais politiques et qui parviennent à faire changer les choses. L'abbé Pierre, quand il parlait de la dichotomie entre le droit et la loi, et qu'il se revendiquait en situation d'illégalité parce qu'il considérait que des choses étaient légales mais qu'elles n'étaient pas légitime, c'est cette question. Regardez toutes ces associations qui se sont créées la période de la guerre ou des années 40-50. La CIMADE s'est créée parce qu'envoyer des gens se faire cramer à Auschwitz, c'était légal. Mais ça n'était pas légitime. Alors évidemment, on n'en est toujours pas... Enfin, tout ne relève pas de cette ampleur et de ce point de vue. Mais il y a un moment où les lois évoluent parce que des gens, à un moment, se mettent en situation d'illégalité s'il le faut, mais font pression, en tout cas, pour faire changer les lois. C'était une parenthèse. Petit 2, c'est une notion qui est donc synchrone avec l'air du temps, qui traduit bien la façon dont notre société se pense aujourd'hui dans un régime d'incertitude, d'insécurité, de précarité multiforme. Et je voudrais aussi vous signaler quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui me semble important dans la notion de vulnérabilité. Si vous regardez comment la société se pense historiquement, sous l'Ancien Régime, on était dans une société d'ordre. Les ordres, donc il y a trois ordres, il y a deux petits ordres et puis un très gros tout en bas, mais c'est une société qui est verticale. À partir du 19e siècle, on était dans une société de classe, avec des dominants et des dominés. C'est une société qui est à nouveau profondément verticale. Quand on entre, à partir des années 60, dans les notions de marginalité, d'inadaptation sociale, d'asocialité, d'exclusion, qui sont imposées dans les années 90, on n'est plus du tout dans une société à conception verticale, on est dans une société à conception horizontale et plus précisément à conception réticulaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au centre de la société et des gens qui sont à l'extérieur ou en périphérie de cette société, qu'il s'agit autant que possible de faire revenir au centre. C'est la lutte contre la fracture sociale, c'est la cohésion sociale, c'est le resserrement du lien social, etc. Toute cette sémantique autour du lien social, de la rupture sociale. Donc on est dans une société spiralaire réticulaire. La vulnérabilité, on est dans quoi? C'est pas vertical, c'est pas horizontal, comme c'est ontologique, et ben finalement c'est une notion quasiment dépolitisée. Et c'est à la fois sa force et en même temps sa faiblesse et son danger, c'est qu'elle ne dit plus grand-chose de la société, si ce n'est que nous sommes tous vulnérables et qu'il faut essayer de retrouver davantage d'autonomie. Et ce n'est pas neutre du tout dans une société qui est dans un rapport compliqué aux politiques depuis un certain nombre d'années. Et enfin, c'est le dernier petit point, ça pose en creux la question fondamentale des causes de la vulnérabilité. Si on entend que la fragilité est intrinsèque alors que la vulnérabilité peut avoir des causes et même a des causes extrinsèques puisqu'elle est relationnelle, qu'elle résulte d'un rapport à l'autre, à l'environnement. Si vous regardez par exemple sur la question de la pauvreté précarité, c'est là où c'est le plus criant, mais même sur les situations dans un sens de handicap, comment le regard social peut être dur, peut être stigmatisant, peut vous rendre responsable de quelque chose dont vous n'êtes ni responsable ni encore moins coupable, c'est aussi à la société de se mobiliser pour faire changer les choses et d'avoir une approche analytique et correcte des causes et des facteurs de la vulnérabilité. Voilà. Merci.